Vivre FM podcast.
Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Bonjour et bienvenue dans Recherche et partage, la dernière pour 2015. Parmi les projets de recherche appliqués, encouragés par la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap, il en est un qui concerne la maladie de Huntington. Je vais essayer de bien le prononcer pendant toute l'émission, ça ne va pas être facile. En tout cas, c'est du nom du médecin américain qui a été l'un des premiers à décrire les symptômes de la maladie. Nous allons nous intéresser à cette maladie justement aujourd'hui et même la découvrir pour certains d'entre nous car ce n'est pas la plus connue ni la plus médiatisée des maladies et pourtant elle concerne de nombreuses personnes et de nombreuses familles car la maladie, comme bien souvent, a un impact sur les proches qui eux aussi doivent composer avec. Alors justement, composer avec Huntington, la maladie de Huntington aux soins de ses usagers, c'est le nom d'un projet de recherche exploratoire porté par le collectif Ding Dang Dong, un nom rigolo pour un sujet on ne peut plus sérieux. Recherche et partage, c'est tout de suite sur Vivre FM. Bonjour, bienvenue donc dans Recherche et Partage et je vous présente tout de suite mes trois invités pour cette émission. On va commencer par, je ne sais pas, d'habitude je commence par les femmes mais là il y en a trois. Alors Katia Youssouf, elle est en haut de ma liste, neurologue, spécialiste de la maladie de Huntington au centre de référence Huntington de l'hôpital Henri Mondeur de Créteil. Bonjour.
Bonjour.
Alice Rivière qui est une personne concernée par la maladie de Huntington et qui fait aussi partie des membres fondateurs d'un collectif qui s'appelle Ding Dang Dong et nous parlerons. Bonjour Alice. Bonjour. Et Valérie Pillet, directrice du collectif Ding Dang Dong. Bonjour et merci. Bonjour. Merci à toutes les trois d'être avec nous ce midi sur Vivre FM pour nous parler de la maladie de Huntington. Alors justement, avant de parler plus spécifiquement d'une recherche exploratoire qui a été présentée par Ding Dang Dong, on va peut-être revenir tout de suite sur cette maladie de Huntington dont je savais peu de choses avant de faire cette émission, mais j'imagine que je ne suis pas la seule. Alors, qui veut commencer peut-être par nous parler de cette maladie héréditaire, orpheline ?
La première des choses à évoquer, je pense, quand on parle de maladie de Huntington, la première chose, c'est que c'est une maladie rare. Donc, vous avez dit que vous ne la connaissiez pas, ou peu avant de faire l'émission. C'est parce que c'est une maladie rare. On se situe dans les maladies qui ne sont pas orphelines au sens propre du terme, puisqu'il y a quand même de plus en plus de recherches pour la maladie, et que c'est une maladie rare relativement fréquente, mais à peu près 6000 personnes en France sont concernées, bien que ce soit que des approximations. Mais pour vous donner un ordre d'idée, quand on parle de la maladie d'Alzheimer, on pense à plus de 800 000 personnes, la maladie de Parkinson, peut-être 300 ou 400 000 personnes, la sclérose en plaques, 80 000 personnes. Donc, la maladie de Huntington, on entend moins parler parce que ça ne touche qu'environ 6 000 personnes en France.
Et les 6 000 personnes dont vous parlez, c'est des malades? Ça ne comptabilise pas toutes les personnes qui peuvent être porteuses.
Exactement, c'est une approximation sur des chiffres de prévalence publiés dans la littérature au cours des 30 dernières années sur le nombre de personnes qui au même moment en France sont censées être porteurs de symptômes, présenter des symptômes liés à la maladie d'après des chiffres de prévalence, mais on n'a pas vraiment idée du nombre de personnes exactement parce qu'il n'y a pas de recensement, c'est pas une maladie à déclaration obligatoire, donc on ne recense pas les patients de façon très stricte.
Et alors on les recense pas, mais comment on les reconnaît? Comment en tant que patient on peut se poser des questions sur le fait d'être porteur ou non? Quels sont les symptômes les plus visibles, ceux qui apparaissent à l'âge adulte, hein,
ça? Alors déjà souvent la maladie de Huntington n'apparaît pas de façon sporadique et c'est ça la première des choses à dire après qu'il s'agit d'une maladie rare, c'est que c'est une maladie génétique, une maladie familiale, et quand on dit qu'elle concerne toute la famille et que tout le monde doit composer avec la maladie, tout le monde doit composer dans une famille aussi avec le risque de la maladie, puisque c'est une maladie qui se transmet de génération en génération, juste en transmettant un gène lors de la conception.
Alice, peut-être vous voulez partager votre expérience, vous êtes porteuse d'un gène de la maladie, mais vous n'avez pas déclaré la maladie?
Je suis porteuse de ce gène. C'est important de dire que le risque, être une personne à risque, ça veut dire d'avoir un de ses deux parents qui en est atteint, qui est malade. Et à ce moment-là, pour chaque enfant, le risque est une probabilité sur deux d'en avoir hérité. Donc c'est
homme-femme, égalité.
Absolument. Donc c'est vraiment pas une vulnérabilité, c'est vraiment une très grosse probabilité. Or, il se trouve que le gène qui a été isolé il y a une vingtaine d'années, du fait qu'il a été isolé, a permis d'instaurer un test génétique qui permet aux gens qui sont comme moi à risque, puisque moi c'est ma maman qui est malade, de faire, s'ils le souhaitent, un test, même s'ils ne présentent pas de symptômes, pour savoir s'ils en sont porteurs. Et s'ils en sont porteurs, puisque c'est un gène qui s'exprime de toute façon, ça veut dire qu'ils seront malades à un moment donné de leur vie, sachant que les statistiques disent que en moyenne, les gens la déclarent entre 30 et 55 ans, avec des personnes qui peuvent la déclarer beaucoup plus tôt dans le cadre de formes juvéniles assez rares, mais quand même, ou alors beaucoup plus tard dans des formes tardives. Et donc moi, je fais partie d'une petite minorité de personnes à risque qui ont souhaité savoir, parce qu'en fait, sur les personnes à risque, seulement 20% à peine font ce test. Dans la mesure où c'est une maladie qui n'a pas de traitement pour la soigner. C'est pour ça que très peu de gens font le test, en fait. Sauf s'ils sont dans un projet de faire des enfants, par exemple, ou qu'ils sont comme moi, absolument allergiques au doute. Sauf que, bon, on va en parler, mais c'est un test qui pose des problèmes. Ça a été une des choses qui ont été à l'origine du collectif, parce que de faire passer un test pareil alors que il n'y a pas de traitement, c'est vraiment une question très, très existentielle qui se pose.
Si je vous suis, ça veut dire que les résultats de ce test vous disent, vous allez déclencher la maladie de Huntington à un moment ou à un autre.
Voilà, à un moment ou à un autre, et vraisemblablement à un moment où je serai active, pas à un moment de la vieillesse. Si on s'en fie aux statistiques, ça, ce qui veut pas dire grand chose, mais en même temps, on est obligé d'y penser avec Huntington, qui est une maladie qui touche l'adulte au beau milieu de sa vie, en moyenne quand même.
C'est quand même surprenant le fait de ne pas vouloir forcément savoir, qu'on peut comprendre, et en même temps se dire, savoir c'est aussi pouvoir prévoir, anticiper, j'imagine, organiser. Non, me dit Valérie de la tête.
Alors, oui, non, mais c'est vrai, je réagissais un peu spontanément, mais bon, c'est peut-être aussi Alice qui peut continuer là-dessus. Mais effectivement, savoir, mais savoir quoi, en fait? Parce qu'on ne sait pas, effectivement, d'une part, quand on va la développer. Parce que bon, les statistiques, c'est entre 35 et 50, ou quelque chose comme ou 30 et 50. Donc, c'est quand même une belle marge. Donc, quand, comment elle va se développer? Et là, je peux peut-être en venir aussi aux symptômes, mais on ne sait pas comment elle va se développer chez une personne ou une autre. Et elle ne se développe pas de la même manière, nécessairement. Et en fait, la maladie d'Huntington comprend un certain nombre de symptômes assez variés, ce qui la rend complexe aussi, mais qui, du coup, ne peut pas dire comment la personne va le développer, mais aussi comment elle va la vivre.
Alors c'est quoi ces symptômes?
Voilà, donc il y a des symptômes d'ordre, donc là je parle sous la supervision du docteur Youssef, il y a des symptômes d'ordre moteur, donc en fait le symptôme principal qui est le plus connu et le plus spectaculaire et qui a donné le nom à la maladie pendant tout un temps, qui s'appelait la chorée de Huntington avant de s'appeler simplement maladie de Huntington, c'est donc les personnes sont touchées par, sont affectées par des mouvements dits incontrôlables, irréguliers, et qui peuvent prendre des formes aussi un peu variables, mais qui peuvent être parfois assez volumineux, enfin je sais pas comment on peut dire, mais qui peuvent en tout cas être assez
flamboyants.
En tout cas, nous les
d'autres moins. Voilà. Et donc ça, c'est du coup, cette maladie a été associée pendant longtemps, il y a très longtemps, mais pendant longtemps, à la danse de Saint-Guy par exemple, ou à ce, c'est pourquoi ça s'est aussi appelé la chorée de Huntington pendant tout un temps. Et donc ça, c'est le symptôme le plus visible, on va dire, le plus flagrant. Mais la chorée, c'est aussi, ça n'est pas que extérieur, ça touche aussi les muscles intérieurs, comment on appelle les
pharyngos, laryngés.
Pharyngos, laryngés, à chaque fois.
C'est-à-dire la déglutition,
voilà,
la respiration,
etc. Donc il y a ce symptôme-là, qui implique donc des problèmes de motricité. Il y a des symptômes d'ordre cognitif. Ça peut être par exemple effectivement ça peut atteindre des capacités d'attention ou de pas pouvoir forcément être en discussion avec plusieurs personnes à la fois ou de ne pas avoir les mêmes en tout cas capacités d'attention que qu'auparavant. Ça peut prendre aussi des effets dans la manière dont les gens communiquent par exemple, donc c'est-à-dire qu'il y a moins de, enfin ça c'est pas tellement cognitif en fait.
C'est la cognition sociale.
La cognition sociale, effectivement. Merci Katia. Et enfin, il y a des symptômes d'ordre psychiatrique qui sont aussi, en tout cas, à discuter, parce qu'effectivement, Il peut y avoir des troubles comportementaux, mais reste à savoir aussi quelle est l'origine de ces troubles comportementaux, en fait. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi dus en partie à la prise en charge ou à la compréhension qu'on peut avoir de la maladie?
Voilà, je disais dans votre témoignage.
Comment, en fait, ça, c'est une maladie qui implique, en fait, une transformation très, très forte de l'être. C'est pas la seule maladie, il y en a d'autres, mais quand même, comme elle est très complexe, elle implique toute cette transformation. Et notamment, les aspects sociaux et communication qui perturbent effectivement la relation aux autres. Et c'est très difficile pour les autres de comprendre ce qui se passe. Et de ce fait-là, ça peut aussi amener des troubles ou des crises ou des moments où on ne sait plus comment faire, en fait. Et
du coup, on peut être colérique, déprimé, angoissé, mais ça peut être un effet secondaire lié au fait qu'on a déclenché la maladie.
Oui, ça peut venir de la maladie et ça peut aussi être une réponse à l'environnement qui réagit mal à certains symptômes, en particulier justement les troubles cognitifs. Lorsque les gens sont ralentis dans leurs pensées, ont besoin de plus de temps pour faire quelque chose et qui sont pressés par leur entourage et qu'ils ont du mal à contrôler bien leurs impulsions, ça va décupler l'irritabilité, le découragement et éventuellement donner des troubles du comportement qui sont très intriqués avec les difficultés cognitives, c'est-à-dire très intriqués au ralentissement de la pensée, au fait que les gens ont besoin de plus de temps, de faire les tâches les unes après les autres et ont du mal à programmer plusieurs actions en même temps.
Là encore, on aurait pu penser que finalement, ce qui se voit le plus est peut-être ce qui va générer le plus de rejet, alors qu'en fait, non, c'est peut-être justement ce qui se voit pas.
Disons que les deux provoquent du rejet, parce qu'il faut dire que les troubles moteurs provoquent aussi du rejet. Les gens sont considérés, on pense qu'ils sont ivres, qu'ils sont en état d'ébriété, parce qu'ils titubent, par exemple, ou parce que quand ils parlent, ils ont une diction qui est un peu empâtée, des choses comme ça. Donc il y a aussi un rejet physique. Mais en effet, les symptômes cognitifs et psychologiques et psychiatriques sont peut-être ceux qui sont les moins bien diagnostiqués parce qu'ils sont moins visibles, aussi par l'entourage, mais en fait perturbent énormément les relations et en effet ont des conséquences très importantes, que ce soit dans la famille ou au travail, et provoquent aussi un mal-être de la part de la personne malade qui sent ses capacités devenir de plus en plus étranges à ses propres yeux et puis aux yeux des autres et puis sans comprendre bien ce qui se passe. Donc c'est très handicapant.
La maladie de Huntington, on va y revenir dans un instant pour savoir si on peut parler de Huntingtonien, mais je crois qu'on a, ça y est, on a effacé ce mot de la recherche et du vocabulaire chez Ding Dang Dong. On y revient dans un instant avec nos invités sur Vivre FM.
11h midi, recherche et partage avec la FIERA sur Vivre FM, Blandine Lacour.
De retour sur Vivre FM dans Recherche et Partage avec nos trois invités, je vais les dire dans un ordre différent pour changer. Valérie Pillet, qui est directrice du collectif Ding Dang Dong, Alice Rivière, qui est une personne concernée par la maladie, et fondatrice du collectif Ding Dang Dong, dont on vous a toujours pas parlé, mais ça ne va pas tarder. Et Katia Youssef, neurologue et spécialiste de la maladie de Huntington. Alors, je disais à l'instant, Huntingtonien, c'est un terme que j'ai lu dans la recherche, qui a disparu, qui est revenu, me disiez-vous, pendant la pause musicale. Alors, comment on doit-on parler des personnes porteuses de la maladie?
Il a disparu dans le titre, en fait, au départ. Ça s'appelait « Comment apprendre à devenir Huntingtonien », carrément. C'était ça le titre de notre projet de recherche. Et puis, au fur et à mesure qu'on a commencé à discuter avec des personnes concernées, on a changé le titre pour déjà ôter Huntingtonien du titre, parce que ça faisait pas l'unanimité du tout. On va dire, pour simplifier un peu, que les personnes comme moi, porteuses ou malades, ça les gênait pas du tout. Au contraire, se reconnaissaient sous ce vocable et en se disant que c'est avec un sens sympa d'une certaine communauté, finalement, entre nous, mais que c'était plutôt pour les proches, les entourants, qui trouvaient que c'était un dépréciatif et que ça épinglait trop toute l'identité des personnes sous ce nom-là. Alors du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a retiré du titre, mais que nous, à Ding Dang Dong, on aime bien exprimer quand même nos avis et la façon dont on ressent les choses. Donc on raconte cette histoire dans le rapport, par exemple, et de temps en temps, on continue d'utiliser. Et d'ailleurs, au congrès européen sur la maladie qui a eu lieu il y a 3 semaines, Huntingtonien est revenu. Enfin, ça, c'est en train de finalement d'être utilisé par plein de gens. Donc,
c'est un peu comme dans le milieu du handicap en général. Ouais. On a eu tous les débats. On est passé de handicapé à personne handicapée, personne porteuse de handicap. Et puis finalement, on se réapproprie les termes. Et puis des fois, les malades eux-mêmes
disent Parkinsonien. Voilà. Oui, tout à fait.
Alors, un mot encore sur la maladie. Après, promis, on rentre dans la recherche, mais on parlait tout à l'heure des symptômes. Il y a une chose qu'on n'a pas encore précisée, c'est le côté dégénératif. Ça, c'est pas une maladie figée, on a des symptômes, mais est-ce que ça va forcément en s'aggravant? Est-ce que tout ça va effectivement aller de mal en pis, ou est-ce qu'on peut espérer un répit? Ou alors peut-être Katia là-dessus le...
Et, bah, les deux, en fait. On peut imaginer qu'on se place sur une longue période évolutive, on doit s'attendre à ce que les choses aillent plus mal, et que le handicap s'accentue, parce que c'est une maladie dans laquelle on va accumuler du handicap. Mais on peut aussi s'attendre à des répits, on peut s'attendre à aller mieux aussi, et c'est une évolutivité qui n'est pas linéaire ou qui n'est pas exponentielle, qui est faite de crises, d'améliorations, de belles surprises. C'est une maladie rebondissante.
On aime bien, Valérie Dindon, dire que c'est une maladie neurozigzagante plutôt qu'une maladie neurodégénérative, et par ailleurs, on aime bien rappeler quand même que la vie est un petit peu neurodégénérative, on finit tous par mourir, hein. Donc ce qui compte aussi, c'est de savoir comment on vit, et comment on la vit, cette vie qui vaut d'être vécue, même si...
Et sur ce thème de neurodégénératif, moi en tant que neurologue, effectivement c'est un terme que j'ai toujours utilisé, parce que ça fait partie de notre vocabulaire, c'est le vocabulaire qu'on a appris dans nos livres, dans nos enseignements depuis qu'on a fait des études de médecine. Et c'est des initiatives comme celle de Ding Dang Dong qui me font me réinterroger sur l'utilisation des mots. Et effectivement, sortir ce mot d'un livre et d'une description froide et clinique de la maladie, et en l'utiliser en consultation devant des gens et des familles, on imagine à quel point ça peut être stigmatisant. Et c'est vrai que moi, je suis en train de le bannir de mon vocabulaire, pas en disant que je renonce à quelque chose de mon enseignement, mais parce qu'il n'est pas utile, en fait, de l'utiliser, je pense, en consultation, dans le vocabulaire. Et que évolutif en soi, c'est déjà quelque chose qui peut être effrayant, de parler d'une évolutivité, mais ça laisse aussi la place à des évolutions plus surprenantes, et pas toujours aller vers le pire.
Voilà, c'est pas forcément négatif, oui. Valérie.
Et si je peux ajouter quelque chose aussi au sujet de cette complexité aussi et de la diversité de cette maladie, c'est que dans on a rencontré quand même pas mal de personnes concernées, malades ou porteuses ou proches. Et c'est surtout là pour le coup quand même les malades qui nous ont transmis cette façon de penser, mais qui nous disent il faut l'entendre aussi quand des personnes effectivement peut-être très malades nous disent bah en fait ça va. Et donc effectivement on a beaucoup de gens qui nous ont dit, alors c'est très dur au début, au moment de la maladie quand elle est encore invisible, parce qu'effectivement là c'est plus des questions de dépression ou de déprime ou des choses comme ça qui sont assez dures à vivre. Mais une fois qu'on a passé ce moment-là, une fois que finalement aussi presque les symptômes sont plus visibles, oui, on a des difficultés, mais c'est pas pour ça qu'on va forcément mal, aussi psychiquement, je pense. Et c'est à entendre aussi, parce que souvent on a tendance à pas, quand on voit des symptômes de l'extérieur, les gens qui sont en face se disent bon, quand même ça va pas trop. Mais en fait, il faut écouter aussi ce que disent les gens et ce que disent notamment les malades. Et parfois ils disent qu'ils se sentent en fait pas si mal que ça. Faut aussi le C'est pas pour non plus donner une image jolie de la maladie, mais il faut l'entendre aussi.
Oui, et puis alors là, depuis, je vous entends parler depuis quelques minutes, mais c'est vrai qu'on a l'air de bien se marrer à Ding Dang Dong quand même. Ça a l'air un peu rigolo quand même tout ce sujet. Donc on en parle, on va en dire peut-être un petit mot pour nos auditeurs qui vous connaissent peut-être pas. Donc c'est un institut de coproduction de savoir sur la maladie de Huntington, avec une équipe pluridisciplinaire. On a ici des profils très différents, et je crois qu'il y a vraiment des profils extrêmement intéressants. Ça se cantonne pas à des médecins, ça se cantonne pas à, non pas que j'ai, enfin qu'il en faut aussi, mais il y a un public très large, et il y a au cœur de Ding Dang Dong les personnes, les premières concernées, les malades, les proches. Qui veut nous en dire un mot, nous présenter Ding Dang Dong de façon concise?
Voilà, ça va être difficile, mais on
va nous donner un avant-goût.
Voilà, c'est un collectif de 17 personnes, très exactement, qui est composé, vous l'avez dit, de personnes qui sont à la fois des chercheurs plutôt en sciences humaines et sociales, des penseurs, des philosophes, des historiens, des psychologues, puis pour moitié de d'artistes, que ce soit danseurs qui travaillent sur la choré, par exemple, chorégraphes, des plasticiens, des vidéastes, écrivains, etc. Et puis on a une médecin qui est Katia Youssouf, ici présente. Et c'est l'idée à germer avec Valérie de créer un collectif pour justement avoir accès à ce dont elle parlait, c'est-à-dire la vie avec cette maladie, comment les gens la ressentent, comment ils font avec elle. C'était un grand mystère, en fait, et on trouvait très peu de littérature là-dessus, très peu. C'était compliqué quand vous interviewez juste un malade comme ça, d'avoir des réponses vraiment... il faut aussi apprendre à poser les questions, etc. Il fallait monter tout un dispositif pour pouvoir recueillir cette parole-là, qui est une parole fragile, qui est difficile à se dire, etc. Et donc, c'est entre autres pour mettre, comme vous dites, au cœur de notre projet la parole des usagers, qu'on a monté cet institut de coproduction de savoir sur la maladie d'Huntington, qui donc mène des recherches à sa manière, totalement en faisant fi des manières académiques de faire. On fait comme nous, on trouve que c'est pertinent de faire.
J'ai lu qu'il y avait des Belges dans l'équipe. C'est pour ça que vous rigolez bien.
C'est ça, la moitié du collectif est belge, c'est vrai.
Oui.
Et alors, du coup, les usagers, alors je ne sais pas si on dit usagers, mais en tout cas les personnes concernées, effectivement, sont au cœur de Ding Dang Dong et au cœur aussi du projet de recherche dont on va parler, parce que c'est à eux qu'on veut justement redonner la parole. Alice le disait à l'instant. Valérie.
Alors peut-être une petite précision sur la question du concernement, enfin d'être concerné. Parce que nous, effectivement, à Ding Dang Dong, donc il n'y a pas que des personnes malades ou porteuses dans le collectif, mais on est tous concernés. C'est un statement. Parce que le concernement, c'est aussi comment se saisir d'une question qui est posée à un endroit dans une situation particulière et pouvoir la travailler au sein de sa propre pratique. Et donc, on a été avec quand on a fondé Ding Dang Dong, on a été trouver des gens avec qui on avait envie de travailler, mais aussi des gens qui nous semblaient pouvoir vraiment se saisir des questions qui étaient soulevées par la maladie de Huntington, et qu'ils y sont aussi pour ça, c'est-à-dire que ça les intéresse dans leur propre pratique. Donc le concernement, il n'est pas que dans ce qu'on appelle habituellement être concerné par, donc c'est-à-dire toucher soit dans le vécu, soit dans le sentiment, ce qui est aussi le cas, mais aussi ça peut être je le dis un peu mal, mais c'est vrai que nous, on a toujours voulu faire pousser de la pensée avec Ding Dang Dong. Et donc ça, c'est aussi un concernement. C'est pas juste
Être concerné comme ça parce qu'on est touché dans sa propre vie personnelle. Et alors Ding Dang Dong, justement créé en 2012, hein, je crois.
Oui.
J'ai vu ça. Pourquoi on est devenu à cette enquête, à la publication d'une grande enquête sur des savoirs, sur des expériences? Alice le disait aussi à demi-mot, il y avait un manque, il y avait pas grand-chose sur le sujet, et puis vous vouliez en plus aborder ça un petit peu différemment, avec un peu d'humour, on l'a vu, avec, on va voir, une méthode de recherche qui est peut-être un peu aussi originale.
Katia, en fait, l'a déjà un petit peu évoqué, c'est-à-dire que les définitions médicales, pas qu'elles soient pas bonnes ou et qu'elles n'aient pas leur utilité au sein de la recherche médicale, mais une fois qu'elles sortent du champ purement scientifique et qu'elles arrivent dans un contexte de consultation, par exemple, mais aussi hors consultation, ces définitions deviennent un petit peu problématiques. C'est-à-dire qu'elles sont souvent réductrices vis-à-vis de l'expérience que traversent les personnes, alors pour le coup, mais concernées encore une fois au sens large aussi, que ce soit malade, porteur, proche, ami, etc., soignant, y compris les soignants d'ailleurs, je pense. Et donc en fait, c'est effectivement nous ce qu'on a voulu faire, c'était se dire c'est dépasser ces définitions et aller au-delà et savoir finalement qu'est-ce qui est mis en place par les personnes concernées, les usagers, comment ils font pour vivre avec, en fait, indépendamment de ces définitions et au-delà de ces définitions. Et donc c'était un peu d'épaissir et de d'épaissir les problèmes posés, en fait. Et c'est en ça aussi qu'on fait de la coproduction, c'est-à-dire qu'on n'est pas contre la médecine, on veut travailler avec la médecine, mais épaissir ce qui a pu être à un moment donné un peu appauvri par rapport à l'expérience des usagers directement.
Et un appauvrissement peut-être dû justement au fait qu'on n'écoutait pas assez ces usagers. On va y revenir dans un instant sur Vivre FM. Vous allez nous expliquer comment, voilà, vous avez replacé ces malades de Huntington ou ces personnes concernées au cœur de cette recherche.
Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Et de retour pour le troisième module de cette émission de recherche et partage avec Alice Rivière, Valérie Pillet, Katia Youssouf. Je ne vous présente plus, ça y est, les auditeurs savent qui vous êtes, sinon ils ont qu'à réécouter le début de l'émission. Katia, vous êtes médecin, je le précise quand même, neurologue. On parlait à l'instant de la recherche du document préparé par Ding Dang Dong, qui est en ligne, je le dis déjà, sur le site dingdangdong.org, et dans lequel on a écouté d'abord les personnes concernées par la maladie. Et dans cette écoute, il y avait beaucoup la peur. Enfin, pas beaucoup peut-être, mais en tout cas, c'est un des sujets dont on n'a pas beaucoup parlé, parce que là, c'est vrai qu'on avait un discours assez gai, on va dire, dans cette émission, mais il y a quand même de la peur. C'est des personnes qui s'inquiètent énormément, qui savent pas trop à quoi s'attendre, qui ont une vision de la maladie, on va dire, assez noire.
Oui, bien sûr, le propos d'une, je veux dire, de ce type, de cette façon d'aborder les choses et d'essayer de recueillir des témoignages positifs n'est pas du tout de minimiser le fait que les gens vivent des situations difficiles, douloureuses, effrayantes, que on a parlé du caractère génétique de la maladie, de ce que ça représentait que se savoir à risque, puis porteur d'une maladie pour laquelle finalement on va pas prédire grand chose, si ce n'est qu'un jour on va être malade et que les choses vont vraiment se compliquer. Mais c'est vrai que c'est une maladie qui génère de l'inquiétude, parce que quand elle survient dans la vie et que les choses et que les personnes n'arrivent plus à gérer leur vie, elle va entraîner des complications, des ruptures et des difficultés qui ont tendance les années passant à se majorer. Donc ce propos un peu positif vise pas du tout à minimiser l'anxiété des gens, des familles, et ne pas reconnaître les difficultés qu'ils sont en train de traverser. C'est juste une façon de pas fermer le discours sur l'angoisse, mais de l'ouvrir sur quelque chose de plus vivant.
Voilà, c'est une maladie grave, on va pas se cacher qu'il peut y avoir aussi des tas de choses positives, et Ding Dang Dong, c'est là aussi pour repositiver un petit peu ça, mais voilà.
Se cacher. C'est une maladie grave pour laquelle on n'a pas de traitement, mais le message des médecins ces dernières années d'abord est de dire que il est absolument injuste et complètement faux de dire qu'il n'y a rien à faire, parce que on travaille beaucoup tous les jours et on sait qu'on peut faire des choses très importantes qui changent la façon de vivre avec la maladie, avec le soin, la prise en charge, les dispositifs médico-sociaux qu'on peut mettre autour d'une maladie. Donc on ne peut pas s'arrêter à un diagnostic, dire aux gens c'est une maladie incurable, il n'y a plus rien à faire. Donc il y a du soin, donc ça c'est le message des médecins, mais il y a aussi des choses qui viennent des usagers et des inventions qu'on doit nous aussi s'approprier et transmettre.
Il y a le partage des expériences, l'expérience des pairs, des personnes concernées, ça c'est extrêmement important, Alice.
Mais oui, parce qu'au fond, c'est là aussi qu'il y a du savoir. Il y a du savoir, c'est ça aussi la fonction qu'on essaie d'avoir. C'est pour ça qu'on essaie de coproduire du savoir avec les usagers, parce que il y a du savoir évidemment médical, mais il y a aussi ce savoir faire et être que les usagers déploient et qui est très précieux et qui doit se transmettre. Et ça a été vraiment notre travail en faisant des entretiens avec environ 80 personnes différentes, dont une grande partie d'usagers, mais aussi des soignants, etc. Au moment où on leur a parlé de ça, souvent on nous disait mais moi je ne sais rien, je pourrais rien vous dire. Et en fait, ils ont découvert qu'ils savaient plein de choses. Et en fait, les gens sont porteurs d'un nombre d'inventions incroyables. Ça va de mettre des petites roulettes sous un fauteuil joli, parce que un fauteuil à roulant, c'est quand même une certaine esthétique, qui est une esthétique qui peut être un petit peu triste, et qu'on a envie justement de rester tel qu'on est jusqu'au bout. Donc on va bricoler, donc des choses très concrètes comme ça, mais aussi des choses, et c'est pour ça que c'est un rapport un petit peu long qu'on a essayé d'approcher, qui concerne cette métamorphose au fond, parce que Huntington s'est engagé dans une transformation corps et âme un peu à fond perdu, et c'est ça qui fait très peur, et c'est normal que ça fasse peur. Je veux dire que ça c'est pareil pour d'autres maladies, hein, Alzheimer, Parkinson, votre proche va changer énormément, vous-même vous changez énormément, pas avec des rythmes très très bizarres qui vous échappe, c'est effrayant si on n'est pas équipé pour ça. Or évidemment la médecine à ce niveau-là, et c'est normal, ne sait pas, c'est presque de l'ordre de existentiel, ne sait pas bien accompagner ça. Enfin, elle fait plein de choses très très importantes, mais ça ne suffit pas. Donc, c'était aussi pour voir comment les usagers se posaient la question de comment ça se passe bien pour certains d'entre vous. C'était un geste un petit peu politique pour nous, parce que sinon, en effet, on peut recueillir plein de témoignages sur comment ça se passe pas bien. Il y en a énormément. Vous allez sur les forums, c'est majoritaire. Mais pour nous, il en allait d'une importance politique aussi d'aller récolter les témoignages minoritaires et de les faire mousser sur la façon dont ils peuvent inventer une manière de vivre qui est tout à fait digne d'être vécu et où ils sont, ils regrettent pas d'être nés et d'être qui ils sont et d'être cette famille-là.
Voilà. Et puis les aider du coup à avoir moins peur parce qu'à mieux appréhender.
Bien sûr.
Alors c'est un premier gros pas, mm-hmm. cette étude que Ding Dang Dong a publiée. C'est une première étape, il y a eu des entretiens, il y a du coup déjà une transmission de savoir, mais c'est qu'un début. C'est-à-dire que là, on a récolté des bonnes pratiques, des manières de faire. Aujourd'hui, il s'agit de les partager. C'est quoi la deuxième étape? Qu'est-ce qu'on en attend finalement de cette enquête, de cette production de savoir sur la maladie de Huntington? Valérie.
Dans un premier temps, effectivement, c'est de faire vivre ce rapport de recherche d'abord, effectivement, donc de le diffuser, de aussi avoir des retours sur ce rapport. Donc c'est important pour nous qu'il continue à y avoir des échanges avec les usagers, au-delà de ceux qu'on a rencontrés aussi, y compris les soignants, donc d'avoir des retours sur ce rapport de recherche. Et ça demande un petit peu d'investissement aussi de faire vivre ce rapport, parce que c'est pas parce qu'il est publié sur un site internet que ça suffit. Malheureusement, donc ça nécessite aussi un petit peu de le rendre activable, et nous comptons aussi le publier sous forme de livre pour qu'il puisse aussi être accessible de manière plus large et dépasser éventuellement aussi le cadre de Huntington, notamment dans la méthodologie qu'on a appliquée dans ce rapport de recherche. Et maintenant on est dans une phase aussi où effectivement à partir de ce qu'on a appris dans ce rapport, et en fait la question principale pour nous, ça a été quand même de bien comprendre qu'il y avait cette phase invisible de la recherche, la phase des débuts, on va dire, la phase invisible de la maladie, pardon, qui est les débuts de la maladie, et où il y a très peu de choses, parce qu'effectivement, comme c'est invisible, c'est très compliqué de pouvoir trouver une bonne façon de le décrire, de décrire ce qui se passe, et donc elle est moins bien prise en charge, cette phase. Effectivement, une fois que les symptômes sont plus visibles, c'est plus facile, y compris pour le corps soignant, de pouvoir apporter des soins, notamment, je pense à l'ostéopathie, la kiné, ou d'autres formes de soins qui peuvent être apportées à ce moment-là. Mais c'est vrai que les phases invisibles qui sont complexes, il y a très peu de choses qui sont faites là-dessus. Et donc notre idée maintenant, c'est de se concentrer sur cette phase-là avec, et de travailler avec les usagers, alors plus sous forme d'entretien, mais de faire des petits ateliers expérimentaux de recherche avec eux pour arriver à mieux décrire ces phases-là, à trouver un vocabulaire plus approprié. On parle beaucoup de dépression, mais en fait c'est pas forcément le terme qui convient le mieux apparemment, d'après ce qu'on a pu recueillir auprès de ces personnes avec qui nous sommes entretenus. Et donc c'est d'expérimenter avec eux ça et d'en arriver à pouvoir produire une sorte de guide pour les phases du début de maladie, pour les usagers, qui puissent un petit peu leur permettre d'avoir des outils pour savoir comment un peu mieux appréhender
pour faire face
ce voyage et cette transformation.
Oui, et à propos d'édition, puisque vous disiez que vous alliez éditer peut-être ce rapport, oui. J'en profite pour citer un ouvrage que vous nous avez amené qui s'appelle « L'épreuve du savoir, proposition pour une écologie du diagnostic ». Ça a été écrit par Catherine Soljou.
Soljou,
je le dis bien. Et donc c'est aux éditions Ding Dang Dong. Alice, peut-être pour nous en dire un mot de cet ouvrage.
Ben oui, c'est sorti il y a quelques mois maintenant, en septembre. Et Catherine Soljou est historienne et philosophe des sciences. Et elle s'est intéressée à ce fameux test génétique qui c'est quand même une rareté, hein, de pouvoir prévoir à l'avance qu'une maladie va se déclencher alors qu'on peut pas la guérir, et qui est un geste qui embarrasse énormément, qui est très difficile à faire passer à la fois pour les médecins et pour les usagers. Là, il y a vraiment un problème commun de quoi faire avec ce pouvoir de décréter, enfin de repérer le gène qui ne s'accompagne n'accompagne pas forcément d'un savoir-faire, parce que comment faire passer ce diagnostic-là, et surtout comment l'intégrer dans un devenir de la personne sans que ce soit presque une malédiction, en fait. Et elle a fait vraiment un très très beau travail de reprise de la question du diagnostic au niveau de la médecine, mais aussi bien plus éloigné de nous, dans les pratiques antiques des oracles, où la pratique de prévenir, enfin d'annoncer l'avenir, était une pratique très courante et très partagée dans la communauté, et avec elle part de ça pour faire des propositions qui sont, on l'espère, inspirantes pour tout le monde.
En tout cas, c'est aux éditions Ding Dang Dong, et on peut retrouver ça sur le site www.dingdangdong.org. Je redonne le titre de l'étude que je n'ai pas cité dernièrement, composée avec Huntington, la maladie de Huntington aux soins de ses usagers. Et c'est une recherche exploratoire que vous avez effectuée et qui... Alors, peut-être un dernier mot, Katia, sur en tant que médecin, vous disiez tout à l'heure, il n'y a effectivement pas de traitement, Alice disait, c'est ça qui est un petit peu bizarre, finalement, dans cette annonce de maladie dont on sait qu'elle se déclarera, mais en même temps, c'est déjà un peu du traitement, cette étude, ces résultats, ce partage d'expérience, c'est déjà une façon, peut-être, de pouvoir traiter, en tout cas, certains aspects de la maladie.
Ah oui, clairement, et d'ailleurs, en fait, c'est ce qu'on fait tous au quotidien. Je pense que une des façons de transmettre des choses positives aux patients et des idées et des façons de faire avec, c'est juste de raconter d'autres histoires. Et j'ai jamais autant raconté d'autres histoires de personnes que depuis que je m'occupe de cette maladie, parce que c'est un apprentissage. On sait que la médecine c'est une science, mais c'est aussi un artisanat. Et un apprentissage qui se construit dans la pratique. Et en fait, moi, j'apprends beaucoup des histoires que me rapportent les gens, et je les leur transmets des fois de façon brute, en disant, ah ben voilà, moi, je vais vous raconter une histoire. Ce matin, j'ai vu en consultation un jeune homme qui m'a raconté ceci, voilà. Et c'est un petit peu ça, beaucoup plus élaboré, bien entendu, mais on est dans le même principe. Et moi, je raconte des histoires et je m'en sers en médecine.
Eh bien, on espère que vous reviendrez toutes les trois nous raconter d'autres histoires à propos de la maladie de Huntington sur Vivre FM. En tout cas, on était ravis de vous accueillir ce midi. Je redonne encore le nom de l'association, c'est pas une association, un collectif, hein, je crois, Ding Dang Dong. Vous pouvez trouver toutes les infos sur dingdangdong.org, et notamment cette enquête qui a été menée, cette grande enquête sur les savoirs expérientiels de la maladie de Huntington. Merci à toutes les trois d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci.
Vivre FM, podcast.